Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle édition de Micro Rebelle Hebdo, à la fois sur microrebelle.fr et sur PFM 99.9. Alors Micro Rebelle Hebdo est diffusé chaque mardi à 15h, donc sur internet et sur les ondes de nos amis de PFM, avec une rediffusion le samedi matin à 7h30 et le dimanche soir à minuit. Micro Rebelle, c'est la radio des luttes sociales et politiques, des alternatives concrètes, qui s'inscrivent dans le changement de société. Et c'est une radio qui est faite avec celles et ceux qui construisent le monde de demain. Et donc chaque semaine, sur Micro Rebelle Hebdo, on vous propose des actualités, notamment les actualités qui touchent le bassin minier du Pas-de-Calais. Quelques annonces, des annonces d'alternatives, de propositions sociales et aussi des annonces culturelles. Et on vous propose un reportage ou des extraits de reportages. On a une heure d'antenne, donc parfois il n'est pas possible de diffuser complètement les reportages dans leur intégralité. Mais donc vous pouvez de toute façon toujours accéder à l'ensemble de nos émissions et de nos reportages en podcast ou en téléchargement sur le site de notre web radio micro-rebelle.fr. Alors d'ores et déjà, je voudrais commencer cette émission par vous proposer de retenir la date du jeudi 6 juillet, le jeudi 6 juillet en soirée, à 18h. C'est l'Assemblée Générale de Micro Rebelle qui sera suivi d'un barbecue. C'est donc c'est dans nos locaux, dans nos studios. Si vous ne les connaissez pas, vous aurez l'occasion de les visiter. Les studios de Micro Rebelle au 197 bis avenue Jean Jaurès à Liévin. Et donc cette Assemblée Générale, nous l'ouvrons à tous nos amis, à toutes celles et ceux qui sont déjà intervenus dans nos émissions, à toutes celles et ceux qui ont envie de découvrir cette belle radio qu'est Micro Rebelle. Et nous allons aborder plusieurs thématiques durant cette Assemblée Générale, des thématiques qui nous sont chères, notamment quel sens et quelle place pour une web radio d'information tournée vers les luttes sociales, politiques, économiques, féministes, antiracistes, écologiques, et quel projet pour Micro Rebelle avec les gens, les associations et les collectifs militants du territoire. Lors de cette Assemblée Générale, bien sûr, on va aborder nos projets pour la prochaine année scolaire, 2017-2018. Et donc on va se retrouver à 20h après l'Assemblée Générale autour du barbecue de l'amitié. Donc n'hésitez pas, retenez bien cette date. C'est le jeudi 6 juillet à 18h, c'est à Liévin, dans les studios de Micro Rebelle. Alors dans l'actualité récente, on avait envie d'évoquer avec vous une action du collectif Ouyouyouy à Lens, c'était samedi dernier, le samedi 17 juin. Donc une action publique devant le Crédit Mutuel, c'est juste à côté de la mairie de Lens. Donc le collectif Ouyouyouy avait notamment confectionné un derrick pétrolier, avec différentes interpellations, différentes informations qui étaient annoncées, écrites sur ce derrick. Alors vous savez que le collectif Ouyouyouy, il se mobilise contre l'extraction du gaz de couche, l'équivalent du gaz de schiste, mais pour le gaz minier. Donc contre l'extraction du gaz de couche en région Nord-Pas-de-Calais. Vous savez qu'il y a 150 forages qui sont prévus dans le Nord-Pas-de-Calais. Et donc le collectif, lui, il se mobilise pour qu'on laisse les énergies fossiles dans le sol, autrement dit pour qu'on arrête cette folie extractiviste. Vous savez que les gaz de couche, ça génère beaucoup de gaz à effet de serre, ça génère de la pollution de l'eau et des nappes phréatiques, avec à la clé très très peu d'emplois qui sont créés. Les extractivistes, notamment la société Gazonor, EGL, ils évoquent le fait que c'est bon pour l'emploi. Autrement dit, aujourd'hui, vous savez que c'est quand vous voulez qu'une initiative passe, il faut dire que ça crée des emplois et c'est... Et en général, on croit que les gens, ça leur suffit. Mais bon, malheureusement, il y a beaucoup de gens, malheureusement pour eux, et heureusement pour nous, il y a beaucoup de collectifs, beaucoup de militants et de militantes qui ont déjà dépassé ce stade et qui informent la population de la vanité de cette affaire de création d'emplois. Donc très peu d'emplois seront créés avec cette extraction de gaz de couche. Par contre, on peut s'attendre à une dégradation des routes, des affaissements de terrain. Et donc ce 17 juin, un samedi, hein, sous un beau soleil, ben, une trentaine de militants qui ont interpellé les Lensoises et les Lensois, donc sur la place devant la mairie de Lens. Et on peut dire qu'une belle réception hein, de la part des Lensoises et des Lensois a permis d'accueillir positivement la démarche de l'action du collectif Ouyouyouy contre l'extraction du gaz de couche. Une autre actualité hein, qui nous a interpellés, qui nous a même un peu sidérés, on n'a pas été directement confronté à cette actualité, c'est relaté dans l'Avenir de l'Artois, hein, dans l'édition de Lens-Lévin et Nacarvin de l'Avenir de l'Artois. Donc ça se passe à Oudin, et c'est une gamine de moins d'un an qui s'appelle Louane, et elle est atteinte de plagiocéphalie. Alors la plagiocéphalie, c'est une déformation du crâne hein, à la naissance, donc une maladie qui touche des bébés pendant la grossesse ou juste au moment de l'accouchement. Et donc cette gamine, elle a besoin de remettre son crâne en place, hein, puisqu'il peut y avoir des problèmes psychomoteurs, hein, des problèmes de dos qui peuvent découler de ça, des problèmes d'asymétrie au niveau du bassin. D'ailleurs, cette gamine, Louane, à Oudin, elle a un début d'asymétrie au niveau du bassin. Elle peut également risquer une surdité à l'oreille, hein, du fait de cette déformation crânienne. Et donc ça se soigne, hein. Ça se soigne, c'est mécanique en quelque sorte, hein, et pour ça elle doit porter un casque pour remettre son crâne en place. Et on a été complètement surpris de voir que cette question de mise en place d'un casque pour que la gosse se soigne, et ben, ça ne donne lieu à aucun remboursement, ou en tout cas très peu de remboursement. Hein, le coût du casque c'est 4 200 €, pour un casque performant qui lui permettrait de remettre son crâne en place. Il y a un modèle de base à 980 €, mais c'est un modèle qui est très lourd, hein, ça pèse le poids d'un casque de moto. Et donc, ce qu'a décidé la mère de famille, c'est de lancer une souscription sur Internet, une cagnotte, pour récupérer l'argent afin de pouvoir payer le casque pour sa gamine, et également pour payer les frais de déplacement, hein, puisque le couple, typiquement, n'a pas de permis de conduire. Et donc, tout ça se passe à Paris, il faut s'y rendre, consulter un spécialiste. Et il faut le faire rapidement, hein, puisque au bout d'un certain temps, les choses vont se dégrader. Et donc, ce qui est complètement ahurissant, c'est donc on est en 2017, hein, une société extrêmement moderne. Eh bien, une famille, pour soigner sa gosse, doit maintenant procéder à une souscription sur Internet, de façon à ce que les carences du côté de la sécurité sociale, du côté de la prise en charge de la santé. Hein, vous savez que la santé est de plus en plus privatisée. Il y a le développement actuellement des assurances privées. Et selon nous, c'est un exemple supplémentaire de cette guerre larvée qui est dirigée en direction des pauvres. Hein. Une guerre au profit des patrons, au profit de l'industrie pharmaceutique, au profit du business de la santé. Et au détriment de celles et ceux, comme la famille de Louane, qui ne peuvent pas débourser l'argent nécessaire pour se soigner. Voilà où on en est en 2017, une actualité qui nous a complètement estomaqué et dont on voulait vous faire part. On continue ce micro-rebelle hebdo, à la fois sur microrebelle.fr et sur Radio PFM 99.9, par quelques annonces. Hein. Annonce des événements à venir, des rendez-vous sociaux, des alternatives qui se mettent en place hein, pour les jours, notamment pour la semaine qui vient. Alors, première annonce, c'est le mercredi 21 juin, donc ce mercredi, et c'est le pique-nique du lag. Alors le lag, hein, on l'a souvent évoqué, c'est le lieu autogéré, hein, le lieu autogéré du bassin minier, c'est à Liévin, au 23 avenue Jean Jaurès. Eh bien le lag, chaque semaine, il met en place un magasin gratuit, autrement dit un lieu où on peut se rendre, hein, c'est le jeudi en général, hein, c'est à 17h, un lieu où on peut se rendre pour disposer de vaisselle, de vêtements, de meubles parfois, enfin bref, tout un certain nombre d'objets gratuitement. Hein, l'idée c'est de mettre en place un lieu où la marchandisation recule et où les gens... les familles, hein, les hommes et les femmes, peuvent disposer d'objets, de mobilier, de cahiers scolaires, de vêtements, de manière gratuite, autrement dit en dehors de tout circuit marchand. Et bien donc l'équipe du magasin gratuit, ce mercredi 21 juin, vous invite à un pique-nique. Donc en général, c'est une équipe qui fait un repas de fin d'année. Et bien là, ce sera un pique-nique familial et militant. Ce sera l'occasion de faire connaissance, hein, autrement dit, si vous souhaitez rencontrer ces personnes et puis participer à un moment sympathique, hein, le soleil est prévu. Dans un cadre verdoyant, eh bien, rendez-vous à 12h15 au Lag, hein, donc au 23 avenue Jean Jaurès. Le départ est en covoiturage et le pique-nique se déroule au parc des Cities à Lens. Alors n'oubliez pas votre pique-nique, bien entendu. Le vendredi 23 juin, ce sont les objecteurs de croissance, hein, les décroissantes et les décroissants du Pas-de-Calais, qui vous invitent à une rencontre autour d'un film, La possibilité d'être humain. Donc c'est l'occasion, autour d'un échange après le film, l'occasion pour les objecteurs de croissance du Pas-de-Calais de faire état de leurs propositions pour transformer la société. Donc le rendez-vous pour ce ciné-débat, c'est ce vendredi 23 juin à 19h, l'ouverture des portes, hein, on vous accueille à partir de 19h. Le film démarre à 19h30, donc La possibilité d'être humain, et dans la foulée du film, un échange avec les décroissants et les décroissantes du Pas-de-Calais. On passe maintenant au dimanche 25 juin. Et c'est à Méricourt, hein, un événement annuel mis en place par la ville de Méricourt. C'est les Médériales. Donc les Médériales 2017, dont la thématique générale c'est Soif 2. Eh bien à cette occasion, le planning familial du Pas-de-Calais va tenir un stand, hein, à ces Médériales entre 11h30 et 17h30. C'est à l'espace Ladoumec de Méricourt. Et donc avec cette thématique Soif 2, le planning familial du Pas-de-Calais, dans la joie et la bonne humeur, tiendra un stand sur soif d'égalité homme-femme, soif de liberté sexuelle, soif de plaisir, tout cela à travers des jeux. Et c'est aussi l'occasion de discuter avec les militantes, les militants, les bénévoles, les salariés du planning familial et pourquoi pas prendre part à la construction du groupe local de Méricourt du planning familial. On passe maintenant aux annonces culturelles et on souhaitait vous signaler un film qui passe au cinéma Les Étoiles à Bruy-la-Bussière. Donc c'est un film qui est assez ancien puisqu'il a été réalisé en 1962 et ce film c'est Du silence et des ombres. C'est un film américain qui a été réalisé par Robert Mulligan. C'est l'adaptation du livre Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur de Harper Lee et c'est un film qui aborde d'une manière assez sobre mais en même temps assez qui amène beaucoup de réflexion la question du racisme aux États-Unis. Donc je vous propose le synopsis de ce film, hein. Atticus Finch, un avocat dans le sud des États-Unis des années 30, doit défendre un homme noir accusé de viol. Le récit est raconté à travers les souvenirs et le regard de ses enfants, Scout et Jem. C'est un récit parsemé de détails sur la vie et les mentalités de l'époque, ainsi que d'anecdotes de voisinage dont certaines inspirées des souvenirs d'enfance de l'auteur du roman, hein, Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur, Harper Lee, qui est à l'origine de ce film, Du silence et des ombres. Donc c'est un film avec Gregory Peck, hein, un acteur connu, un très chouette acteur, qui d'ailleurs a eu un Oscar pour ce film. C'est un film qui d'ailleurs a eu beaucoup de récompenses. Hein. Il a été classé à la 25e place des meilleurs films américains de l'histoire. Hein, un classement établi en 2007. Donc un film qui pose un certain nombre de questions sur ce pays, sur ce racisme. Un film aussi qui a une partie juridique, puisque ça une partie dans un tribunal, avec un aspect assez particulier. Tout ça s'est vu à travers l'œil d'enfant. Voilà, donc ça se passe au cinéma Les Étoiles de Bruy-la-Bussière. Et donc, vous pourrez assister. Il y a très peu de représentations. Hein, notamment, on vous signale le samedi 24 juin à 14h30, le dimanche 25 à 16h30 et le lundi 26 à 20h30. Donc, Du silence et des ombres à Bruy-la-Bussière. Alors, pendant qu'on y est, hein, on profite de de l'annonce qu'on vient de faire concernant le cinéma Les Étoiles à Bruer et le film Du Silence et des Ombres. Il y a un autre film qui aborde un petit peu cette thématique du racisme, hein, un petit peu, et puis des luttes des Noirs, toujours aux États-Unis. Donc c'est également à Bruer-la-Bussière, au cinéma Les Étoiles, mais c'est un film récent, hein, c'est un film documentaire. I Am Not Your Negro, c'est un film qui est réalisé par Raoul Peck. Donc Raoul Peck, c'est un réalisateur haïtien, c'est l'actuel président de la FEMIS, et donc ce film documentaire retrace la lutte des Noirs américains pour les droits civiques à partir d'un texte de James Baldwin. Voilà, c'est également un long métrage qui a eu de nombreuses récompenses. Il a été en particulier nommé aux Oscars 2017 au titre de meilleur documentaire. Voilà, donc c'est toujours à Bruer-la-Bussière, et donc les horaires de passage, hein, c'est le vendredi 23 juin à 16h30, le dimanche 25 à 20h30 et le lundi 26 juin à 16h30. Après les actualités et les annonces sociales, politiques et culturelles, c'est maintenant l'heure de notre reportage, de nos reportages sur Micro Rebelle Hebdo et sur PFM 99.9. Alors juste avant ça, on va faire une petite pause musicale. On vous propose, comme d'habitude sur Micro Rebelle, de la musique libre. Et aujourd'hui, c'est de la soul avec un groupe qui s'appelle Fridonia. C'est un groupe madrilène. Et on va pouvoir apprécier la voix sublime de Maïka Cité. C'est une chanteuse qui a vraiment la soul chevillée au corps. Avec un morceau dont le titre aussi nous parle forcément. C'est Dignity and Freedom, dignité et liberté. Oh, can't take long. Nous sommes toujours sur Micro Rebelle Hebdo, sur microrebelle.fr, notre web radio, et sur Radio PFM 99.9, radio hertzienne de l'Arrajois. Eh bien, on va maintenant arriver à un premier reportage, ou plutôt à un extrait d'un reportage qu'on va diffuser en intégralité très prochainement. On n'a pas encore de date à vous communiquer. Donc c'est la SIC CLIS 21, la société coopérative d'intérêt collectif CLIS 21, qui organise des séries de débats, des débats pensés ensemble. C'est le nom de cette série de débats organisée par CLIS 21. Et dans la récente période, il y a eu des débats organisés suite aux élections présidentielles, donc notamment des échanges pensés ensemble sur l'économie sociale et solidaire d'un côté, et de l'autre côté sur l'éducation populaire. Donc là, c'est un extrait des échanges sur l'éducation populaire. Et notamment, on va écouter Nadine, qui est la responsable du secteur éducation populaire de CLIS 21, qui évoque quelques enjeux actuels, quelques enjeux d'aujourd'hui sur l'éducation populaire, des enjeux, des perspectives, et puis des points de vigilance également. Donc on écoute Nadine et je vous retrouve tout à l'heure.
Le constat qui est fait aujourd'hui, c'est ce que rappelait Gerbin, c'est-à-dire que les pratiques associatives, elles sont prisonnières de leur modèle économique et du fonctionnement à court terme et dépolitisé des financements par appel à projet. Enfin, ça, c'est la situation aujourd'hui. Et que donc cohabitent deux types de choses. Donc ça, c'est Franck Lepage qui dénonce énormément ça. C'est que la culture, en termes d'action culturelle, elle porte des valeurs, elle vise l'universalisme. C'est le contraire des classes, de la lutte des classes, quoi. La culture aujourd'hui, elle met en avant des valeurs universelles qui sont consensuelles. L'art, l'égalité, la citoyenneté, la diversité, le respect, l'universalité, la fraternité, etc. Donc ce sont des valeurs qui sont mises en avant et qui sont interclassistes. Dans les dispositifs du traitement social d'insertion aujourd'hui, la politique de la ville, les défis jeunes, etc., c'est tous les mots-clés qu'il faut retrouver pour que nos demandes de financement elles passent. L'intergénérationnel, enfin, j'ai arrêté ma liste à un moment donné, mais ça vous parle tout ça, hein, toutes ces valeurs et tous ces objectifs qui font consensus, parce qu'ils sont universels, quoi. Et dans les contenus de ce qui mobilise les gens aujourd'hui, on retrouve le même type d'universalisme, la protection de la planète, la protection de l'environnement, le développement du bio, etc., la réflexion sur notre alimentation, enfin, quelque chose qui est extrêmement porteur depuis, on va dire quoi, 15-20 ans, qui mobilise beaucoup de l'énergie militante aujourd'hui, alors qu'il y a des sujets qui paraissent ringards, hein, du genre le féminisme, pour donner un exemple au hasard, mais donc des sujets comme ça qui mobilisent beaucoup de l'énergie militante aujourd'hui, y compris de progressistes, y compris de gens qui ont une visée utopique de transformation sociale, ce sont quand même des sujets qui sont qui font consensus, quoi, qui relèvent de l'universalité, l'avenir de la planète. Et je cite Franck Lepage, donc lui, l'éducation populaire qu'il propose de mettre en avant au regard de face à ça, c'est une éducation populaire pour comprendre, critiquer, créer, c'est-à-dire rendre lisible pour tous les rapports de domination, les antagonismes sociaux et les rouages de l'exploitation, comprendre comment fonctionne le capitalisme, autrement dit, remettre sur la table le contenu de la lutte des classes, de l'existence de la lutte des classes et de comment c'est possible et de comment on peut, pour réfléchir ensemble à comment on pourrait s'en sortir. Les mêmes, hein, donc j'ai beaucoup mis mon nez dans les écrits de Franck Lepage et d'une personne qui s'appelle Adeline de Lépiné, qui est une libertaire. C'est elle qui a coordonné le dossier éducation populaire de Alternative Libertaire, de il y a 2-3 ans.
L'été 2015.
L'été 2015, il va y avoir 2 ans. Pareil, cette idée de démocratie participative hein, qui plaît à beaucoup de monde, qui est très à la mode, y compris chez des gens qui prennent la transformation sociale. La démocratie participative, le constat qu'on fait, c'est qu'on continue sans rien changer. Ça se révèle être une fabrique du consentement, la démocratie participative. Je ne détaille pas, hein, je donne des points de vue. Rien que ça, on pourrait le discuter pendant une heure. Hein. Sur la réalité aujourd'hui, quand je vous ai lu des extraits de la loi Le Chapelier, hein, 1791, l'interdiction des corporations, des particularités, etc., ça fait penser à la loi Macron aujourd'hui. Hein, on proposait de faire le lien avec ce qui se passe aujourd'hui. Mais quand il refuse, parce que Le Chapelier, c'était, il y a l'individu et il y a l'État. Et il s'opposait aux corps intermédiaires, hein, aux syndicats, etc. Quand Macron dit on va inverser comment ça s'appelle, la hiérarchie des normes, ça y ressent quand même un petit peu, quoi. Hein, ou quand Macron dit je suis contre les statuts, tout le monde pareil. Donc en mettant en avant des mots qui plaisent, hein, pas de différence, pareil, égalité, etc. Il y a quand même une remise en cause d'une organisation de la société qui avait comme valeur au moins la défense des ouvriers et des travailleurs. Quoi. Sur la situation aujourd'hui, ce que j'ai également trouvé, c'est le résultat d'une analyse, deux enquêtes qui portaient sur les jeunes à la politique. Une enquête en 2014 qui a été faite pour l'Assemblée nationale. Donc, c'était l'Observatoire de la jeunesse solidaire qui a fait ça. Et puis, ensuite, il y a eu une enquête qui s'appelait « Génération quoi ?», qui a été publiée dans Le Monde quelques mois plus tard.
C'était fait par France 2 et M6,
je crois. Oui. J'ai Le Monde qui est cité, mais je ne savais pas. Et donc, il y a deux universitaires qui ont étudié ces enquêtes et qui les ont analysées. Et le constat qu'elles font chez les jeunes, donc ce que je vous dis, ça concerne les jeunes, mais ça éclaire sur la réalité d'aujourd'hui, quoi. Que chez les jeunes, on observe à la fois un fort potentiel de résignation et également une grande force critique. Globalement, les jeunes sont plus instruits. On est quand même dans une société où l'instruction s'est développée, où on a accès aux informations avec les outils modernes de communication. Et donc, on a vu se développer une grande défiance liée au décalage entre les attentes démocratiques et la réalité. Ça a comme conséquence que beaucoup de jeunes choisissent de se réapproprier le politique. Ils ne s'en désintéressent pas, contrairement à ce qu'on pourrait s'imaginer, mais il se le réapproprie à une échelle plus intime et locale par opposition à une adhésion à des idéologies constituées ou nationales. La cause de cette absence de mobilisation est la méconnaissance et de mobilisation collective. C'est la méconnaissance et l'incompréhension. En effet, la déstructuration de l'encadrement politique traditionnel a entraîné le fait que les jeunes issus de familles dépolitisées n'ont plus les moyens d'acquérir une culture politique et que les inégalités de socialisation politique se reproduisent d'une génération à l'autre. Donc ça, moi, je trouve que c'est intéressant de l'analyser comme ça parce qu'on sort du constat culpabilisateur sur les jeunes et les gens qui ne vont pas voter, quoi. Ça donne des clés pour comprendre, et quand on a des clés pour comprendre, eh ben, on perçoit un peu mieux ce qu'on pourrait faire, quoi. Et je mets ça en rapport avec 44. Recréer des lieux d'éducation politique des jeunes adultes, ça serait une réponse à cette analyse sur les enquêtes, quoi. Sur des petites notes positives, Attaque, qui a été créée en je ne sais plus quelle année, en 2002, il obtient son agrément de jeunesse et d'éducation populaire. Alors que Attaque se définit comme étant, ayant pour but d'informer sur l'économie, expliquer les inégalités et proposer des moyens pour y remédier. C'est quand même une note positive au regard de l'évolution de l'éducation populaire, de l'animation socioculturelle et de sa cohabitation avec la culture, avec un grand C, quoi. En 2002, il y a quand même eu la création d'une organisation comme ça, qui a une force de frappe aujourd'hui, enfin, qui est pas ridicule en taille et en impact. Et puis, point de repère que nous donne donc Adeline de je ne sais plus quoi, qui s'est penchée sur les expériences d'éducation populaire en Amérique latine et notamment au Brésil, c'est les différents niveaux de conscientisation où on s'aperçoit que par l'éducation populaire, on peut passer d'une conscience soumise qui entraîne un sentiment d'impuissance. On entend beaucoup, hein, on ne peut rien faire, c'est comme ça, etc. Ensuite, une conscience pré-critique qui consiste à mettre des mots sur les choses et à se situer dans les rapports sociaux. Ensuite, à une conscience critique intégratrice qui nous donne envie de vouloir faire bouger les choses, mais sans pour autant être prêt à tout remettre en cause. Pas la révolution, quoi. Et enfin, une conscience critique libératrice qui nous fait constater qu'agir dans le cadre ne suffit pas et nous pousse à agir collectivement pour changer le cadre. Donc ça donne des pistes pour ne pas se décourager face à ce qu'on pourrait interpréter comme un comportement amorphe d'une majorité des gens. Et ensuite, dernier point de repère dans la diversité des stratégies, ce qu'elle propose, c'est que l'éducation populaire investisse trois niveaux stratégiques, un niveau sans le pouvoir. Et elle dit les expériences alternatives menées en dehors du système dominant ont valeur d'exemplarité, même si leur généralisation semble impossible. Par exemple, les AMAP, c'est pas elles qui vont entraîner l'extinction des hypermarchés. La presse indépendante, c'est pas elle qui va ruiner les grands médias. Les écoles alternatives, c'est pas elles qui vont saper l'éducation nationale. Les coopératives autogérées, c'est pas elles qui vont liquider le mode de production capitaliste. Néanmoins, ces alternatives en acte constituent des contre-exemples. La preuve qu'on peut faire autrement que le modèle capitaliste n'est pas le seul possible. Donc ça, c'est ce qu'elle appelle les actions sans pouvoir. Ensuite, il y a les actions contre le pouvoir. S'opposer au système en place, le remettre en cause, en dénoncer la violence et l'absurdité, c'est aussi constitutif de l'éducation populaire. L'action politique a des effets sur la société, mais plus encore sur les militantes et les militants qui, à mesure qu'ils embrassent une cause, tuent les flics qu'ils ont dans la tête. La contestation du système, même la moins radicale, relève de cette démarche. Et puis ensuite, elle reconnaît l'intérêt d'une éducation populaire qui agit avec le pouvoir. Il peut exister des espaces de subversion au sein du système. C'est ce que peuvent pratiquer, par exemple, à force de patience et d'opiniâtreté, les partisans et partisans d'une alternative pédagogique au sein d'Éducation nationale. C'est l'exemple qu'elle donne, on pourrait en trouver d'autres. Et elle conclut en disant qu'on le veuille ou non, ces trois stratégies, sans le pouvoir, contre le pouvoir, avec le pouvoir, elles interagissent et c'est tant mieux. Si la séparation était étanche, le risque serait que chacune s'autosuffisant se déconnecte d'un projet de transformation globale pour la première, réelle pour la deuxième et radicale pour la troisième de la société. Donc j'avais envie de vous dire ça parce que ça donne une petite note d'optimisme.
Voilà, c'était donc un extrait hein, d'une intervention à l'occasion d'un débat pensé ensemble de la CICLIS 21 sur les enjeux de l'éducation populaire, notamment suite aux élections présidentielles. Donc on en reparlera prochainement hein, à l'occasion d'un reportage un peu plus approfondi et plus spécifique sur cette thématique. On va se retrouver tout à l'heure, juste après une nouvelle pause musicale. On va rester avec Fridonia, donc le groupe de Saoul espagnol, hein, madrilène, et un nouveau morceau, Shake Your Body. En quelque sorte, remue-toi, remue ton corps.
We gonna shake your body. We gonna shake your body.
Bien, donc toujours sur Microrebelle Hebdo, microrebelle.fr et PFM99.9. Un nouveau reportage est en préparation, hein, un reportage sur l'agriculture paysanne. Donc ça va être un reportage assez long, hein, a priori en deux ou trois parties. Donc un reportage qui va aborder qu'est-ce que c'est que cette question d'agriculture paysanne, son histoire, les luttes dans le monde paysan, le syndicalisme paysan. Donc toute une série de thématiques sur lesquelles on va essayer d'approfondir. Et dans le contexte de ce reportage, nous avons interviewé des hommes et des femmes hein, de tout âge, hein, des jeunes, des moins jeunes, qui souhaitent s'installer, qui changent de métier pour se tourner vers l'agriculture paysanne, qui sont déjà installés, qui ont été installés, qui ont cédé leur ferme, des gens qui militent pour une autre agriculture. Et donc, c'est aujourd'hui hein, un petit peu un avant-goût de ce reportage avec deux témoignages hein, qui donnent une petite idée des interviews qu'on a pu mener. Deux témoignages pour nous mettre l'eau à la bouche. Hein, et on va commencer par Karine.
Bonjour, je m'appelle Karine. Je suis en voie d'être paysan. Je suis en train de m'installer avec mon compagnon dans le début de la Vénois. En maraîchage biologique et production de plantes aromatiques et médicinales. C'est une reconversion. Avant, j'ai travaillé une dizaine d'années dans l'édition et j'habitais à Paris. Voilà. Et par ailleurs, je suis bénévole et administratrice d'une association qui s'occupe d'accompagner les gens, dans mon cas, en fait, qui veulent s'installer en agriculture mais qui ne sont pas issus du monde paysan. Et qui ont des projets d'installation un petit peu atypiques par rapport au monde agricole traditionnel.
Très bien, alors comment s'appelle cette association ?
Elle s'appelle Avenir 5962.
Tu peux nous en dire un peu plus sur qu'est-ce que c'est, ça concerne qui, qu'est-ce que c'est que ces projets dont tu nous parles, le tien notamment, puis d'autres, dont s'occupe Avenir ?
Donc c'est une association qui a été créée pour donc soutenir les projets d'installation en agriculture paysanne et donc les projets dits atypiques, enfin c'est la vision de la chambre d'agriculture en fait. Donc atypique, il faut savoir que le maraîchage est déjà considéré comme atypique, même s'il l'est sans doute de moins en moins et que les institutions commencent à mieux connaître. Mais c'est-à-dire qu'on n'est pas sur un système de ferme polyculture-élevage à grande échelle avec des recherches de profit. Enfin, voilà. C'est vraiment une agriculture paysanne plus à taille humaine avec une volonté un peu de progrès social, enfin d'épanouissement individuel aussi. Enfin, voilà. Des recherches en fait. Beaucoup de porteurs de projets qui vont dans cette direction sont. Recherche aussi un meilleur équilibre de vie. Souvent, ils ont quitté des boulots un peu qui étaient bien payés, mais où la part humaine était beaucoup moins importante.
Ce qui est ton cas, typiquement ? Tu disais que tu viens de l'édition.
Un petit peu. Oui, moi, j'étais pas dans un cas extrême. C'était mon boulot était pas si mal. C'est juste que moi, j'en avais marre de la ville. J'avais l'impression d'avoir fait un peu le tour. C'est vrai que la structure entreprise me convenait à moitié aussi, mais je n'étais pas non plus dans le pire des cas. Mais oui, j'avais un désir de retourner plutôt à la campagne. Au départ, je pensais même bosser à distance. Et puis finalement, le défi de créer son activité et d'être un petit peu autonome m'a tenté. Quoi.
L'a emporté.
Voilà.
Alors justement, ben, donc je suis jeune. Ce que je fais dans mon boulot me plaît pas. J'envisage de faire du maraîchage. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Je vais voir Avenir. Qu'est-ce qui va se passer après ? Qu'est-ce que va faire Avenir pour moi ?
Avenir, dans un premier temps, va. Tout dépend. Enfin, si c'est vraiment juste une idée qui me passe par la tête, Avenir va commencer par m'inviter à creuser un petit peu, c'est-à-dire en allant voir un petit peu la réalité sur le terrain. Parce qu'il y a beaucoup. Je pense qu'il y a quand même aussi beaucoup de rêves en ce moment sur le monde agricole. On projette beaucoup, beaucoup de choses qui ne correspondent pas forcément toujours à la réalité. C'est un milieu qui n'est quand même pas facile, même si on n'est pas dans le milieu agricole traditionnel. C'est pas un travail très, très facile. Et d'ailleurs, moi, je remarque un paradoxe, c'est que je vois qu'il y a beaucoup de gens qui ont fait des burn-out et des gens qui étaient vraiment pas bien dans leur travail, qui arrivent dans un changement, qui sont déjà fragilisés et qui finalement veulent choisir un métier où ça va être aussi très dur. Enfin, c'est un peu... Mais après, pour certains, ça prendra, pour d'autres, non. Et parfois, ça sera juste une étape vers autre chose. Et c'est plutôt, je pense que ça marque un retour vers un désir de plus d'authentique.
Alors, tu parles d'un métier très dur. Qu'est-ce qui est dur dans l'activité de paysan ? C'est le temps de travail,
temps de travail est assez important. Après, je pense que la densité du travail est peut-être par contre moins importante pour ce qui est travaux des champs, par exemple. Moi, je sais que je vais passer beaucoup plus facilement 8 heures dans le champ que 4 heures devant mon ordinateur. Enfin, en termes de charge mentale, c'est pas la même chose. Après, ce qui est difficile, c'est de tout combiner, parce que surtout, on est beaucoup dans des projets vente directe, on veut diversifier, faire de la transformation. Enfin, en gros, quand on arrive dans un projet comme ça, vu l'extérieur, on a envie de tout faire d'un coup. Enfin, moi, c'est vraiment mon cas, faire des plantes, faire les transformer, les vendre en direct, faire des formations, des animations, enfin... Donc voilà, déjà, il faut savoir faire la part des choses dans tout ça, savoir les combiner. Donc il ne faut surtout pas commencer en faisant tout. donc ça, c'est quand même un vrai travail de gestion, qui est quand même bien prenant aussi, sans parler de toute la comptabilité et tout ça, et la gestion d'entreprise. Et puis, surtout les premières années, il y a quand même tout ce qui tourne autour de l'installation, qui est particulièrement difficile, en fait. Les recherches de terre, les confrontations, en opposition, mais se confronter aux réalités des institutions agricoles, faire toutes les démarches, c'est pas les démarches les plus évidentes qui soient, quoi. C'est un peu, je pense que dans l'administration, l'agricole est assez haut placé pour sa complexité.
Très bien. Alors donc justement, hein, avec un petit peu ta sensibilité à venir, puis ta sensibilité pratique, hein, avec ton compagnon. Comment est-ce que tu vois, d'une manière générale, la réalité du monde paysan, son évolution aussi, son devenir, qu'est-ce qui prédomine chez toi ? C'est l'optimisme ? C'est un questionnement permanent ?
C'est un peu les deux. Enfin, je dirais pas pour le monde agricole plutôt que le monde paysan. Moi, j'ai l'impression qu'on va dans deux directions en même temps, en fait. Qu'il y a d'un côté les très gros et l'agro-industrie qui ne fait que augmenter et qui est de pire en pire. Et de l'autre côté, il y a un retour... justement avec des petits projets, les consommateurs qui ont envie de retrouver le lien avec les agriculteurs, et inversement. Et donc ça, je trouve ça super positif, et je pense qu'il y a beaucoup de choses qui vont évoluer dans ce sens, pour peu qu'on ne mette pas trop de bâtons dans les roues. Je pense que ça ne peut être que... Je pense que on va vraiment évoluer dans le bon sens. Tout dépendra après, évidemment, des décisions en haut lieu, si vraiment ils sont décidés à laisser faire ça ou pas, quoi, mais... A priori, si la dynamique qui est en route continue, c'est plutôt positif, quoi. Mais après, c'est vrai que de l'autre côté, il y a quand même toute une part du monde agricole et agroalimentaire qui est bien loin de tout ça. Et ça, il ne faut pas se le cacher non plus, quoi. On n'est pas encore prêt de nourrir tout le monde en France avec la petite agriculture biologique ou paysanne, quoi.
Bien, je te remercie. Alors, une toute dernière question, peut-être très, très pratico-pratique, hein. Est-ce que tu peux nous décrire un petit peu l'activité que tu as avec ton compagnon? Tu parlais de vente directe, c'est du maraîchage, tu parlais de plantes aromatiques. Concrètement, vous faites quoi? Vous commercialisez quoi? C'est où? On peut vous trouver où? On peut vous soutenir comment?
Alors nous, on a créé une petite structure qui s'appelle le panier de la Tournichette à Warny-le-Petit, donc c'est entre Valenciennes et Maubeuge, juste au milieu, c'est vraiment les portes de la Vénois. Donc on cultive surtout des légumes sur à peu près, pour l'instant on a 8000 m2, et dont une parcelle qui est à 10 km de chez nous, c'est pas très pratique, mais on a les serres tout près de la maison, ça c'est mieux. Donc on cultive, on a au moins une trentaine de légumes, hein, ça, de cultures plus classiques de conservation, carottes, pommes de terre, betteraves, jusque des cultures de serres comme tomates, poivrons, aubergines, voilà. On essaye d'avoir des variétés un peu diversifiées, parce qu'on vend, en fait, on fait donc de la vente directe, essentiellement sous forme de panier, même si pas seulement. On fait pas partie d'une AMAP, mais on a gardé un peu le système de panier qui nous permet d'optimiser au mieux l'écoulement de notre production. Comme on a une très petite surface, on peut pas trop se permettre d'avoir de pertes. Et du coup, on propose un panier toutes les semaines à 15 euros ou à 20 euros. Et puis les gens disent OK ou pas. Enfin, eux n'ont pas d'engagement. Et ils choisissent le panier. Après, s'ils veulent prendre quelque chose en plus, ils peuvent, et c'est payé en plus. Enfin, il y a une liste de légumes au détail aussi. En vrai, on remarque que 80% des gens au moins prennent le panier, quoi. Donc, Voilà, ça leur permet de découvrir des légumes. Moi, je leur fais une petite newsletter toutes les semaines pour leur expliquer un peu la vie de la ferme, les légumes, comment les cuisiner, tout ça. Et on sent vraiment qu'ils ont envie de... Ils accrochent à ça, ils ont envie de redécouvrir, quoi.
Et tu parles de newsletter, il y a aussi un site internet ?
Il y a un blog, oui. Enfin bon, après, concrètement, il reprend la newsletter. Au début, il y avait d'autres choses, mais là, c'est rare qu'il y ait un nouveau.
Mais peut-être
article.
Pour le signaler aux auditrices, aux auditeurs.
Oui, voilà. Ouais. On n'a pas encore réussi à le mettre sous un vrai nom de domaine. Donc, c'est tournichette.wordpress.com. Mais si on tape tournichette sur Google, on tombe forcément sur nous.
Très bien. Ben, merci, Karine. Voilà. Et puis, bonne continuation et bon courage.
Merci.
Alors, on poursuit toujours sur le même thème, sur des petits témoignages concernant l'agriculture paysanne, dans le cadre d'un reportage plus important que Micro Rebelle prépare actuellement. Donc cette fois-ci, on va donner la parole à Justine. On vient d'entendre Karine qui avait sa ferme avec son compagnon Mathias dans l'Avesnois. Ben là, on est à l'autre bout de la région, hein, on est dans le Boulonnais avec Justine.
Bonjour, moi c'est Justine Berthoux, j'ai 27 ans et je suis installée en maraîchage biologique sur la commune d'Ermelingan dans le Boulonnais depuis le 21 mars 2017. Alors je suis hors cadre familial à la base, mes parents sont cadres dans l'informatique et moi j'ai fait des études pour être ingénieur forestier où je me suis spécialisée dans l'agroforesterie par après et j'ai voulu me rediriger vers l'agriculture, notamment le maraîchage. Avec l'idée de faire un peu d'agroforesterie dessus aussi.
Alors donc c'est une toute jeune installation. Comment ça se passe ? Comment tu commercialises ? Quels sont les débouchés ?
Alors en fait, j'ai eu beaucoup de chance parce que c'est un paysan qui m'a ouvert les portes de sa ferme. Donc c'est un éleveur laitier qui m'a cédé 1,80 hectare pour que je puisse m'installer. Et en fait, l'idée, c'était de compléter, lui, sa vente directe de viande. Et du coup, moi, je produis les légumes. Donc, une partie des légumes sont revendus à la ferme pour alimenter le point de vente. Et sinon, je fais aussi des marchés et je livre des entreprises avec les légumes.
Alors, une formation en agroforesterie, tu es hors cadre familial, autrement dit, pas du tout issu du milieu agricole et paysan. C'est difficile. Comment on apprend ?
Oui, c'est très difficile parce qu'en plus j'ai fait mes études à l'étranger, donc je suis partie 5 ans en Amérique du Nord et donc quand je suis rentrée en France, j'avais vraiment qu'un très lointain souvenir du milieu agricole français. J'avais un grand-oncle qui était éleveur laitier mais pour qui ça s'était mal terminé, donc voilà, j'avais beaucoup d'a priori là-dessus. Et donc, il a fallu que je me forme pour le maraîchage. Donc, j'avais commencé à travailler chez une maraîchère le soir pour voir si j'aimais vraiment ça. Et après, j'ai été accompagnée par Avenir pour monter mon projet. Et puis, on m'a proposé de faire la formation APTEA, une formation où je pouvais aller travailler chez 3 maraîchers en alternance pendant un an et aussi faire des formations théoriques sur la comptabilité, la gestion, faire des tours de plaine et rencontrer d'autres agriculteurs pour être plus dans le monde agricole que je connaissais mal.
Alors si tu es d'accord, on va détailler un petit peu cette formation APTEA. Donc c'est une formation qui est mise en place par l'association Avenir. Alors concrètement pour toi ça s'est passé comment ? Tu parles de trois autres fermes. Alors comment ça se passait ? C'était à la semaine Est-ce que tu peux nous décrire précisément, enfin concrètement ?
Oui, alors en fait, tous les mois, j'avais un planning que j'élaborais avec l'association Avenir. Et donc, j'avais en tout 44 jours à faire chez chaque maraîcher. Et donc, en gros, j'avais à peu près 3 à 4 jours par semaine où j'allais travailler chez eux. Donc, en général, je m'arrangeais pour être toutes les semaines sur chaque ferme. Donc, je tournais et j'avais aussi un ou deux jours, soit pour aller en formation complémentaire sur d'autres sujets, soit pour travailler mon dossier et aller à mes différents rendez-vous avec les banques, les assurances, etc., pour pouvoir être prête à m'installer à la fin de ma formation.
Alors les 3 fermes dans lesquelles tu allais hein, chaque semaine, hein, 44 jours par ferme, c'est des fermes qui faisaient la même chose ou tu as appris des choses différentes ? C'était complémentaire ?
Alors j'avais principalement recherché autour de chez moi au départ, donc dans le Boulonnais, et j'ai eu la chance de tomber sur 3 fermes bien différentes avec des surfaces différentes. Donc qui allait de 8000 m² à 10 hectares. Et avec des mécanisations différentes, du motoculteur au tracteur, et avec des modes de commercialisation différents aussi, que ce soit des paniers, AMAP, ruche qui dit oui, les cantines de lycée, les biocoop, la vente à la ferme. Et du coup, ça m'a permis de me faire une idée sur ce que j'aimais vraiment faire. Et ça a changé pas mal de choses par rapport à l'idée que j'avais de mon installation après et ce que je fais finalement maintenant. Ça a permis de savoir ce que je voulais vraiment faire, ce que j'aimais.
Finalement, cette formation Optea, c'est une bonne formule pour se rendre compte de la réalité du métier, finalement.
Ah bah oui, complètement. Ça m'a permis à la fois de m'intégrer, de me rendre compte des démarches qu'il y avait à faire. Ça m'a permis de voir les erreurs à éviter. Je pense que j'ai gagné beaucoup de temps en voyant les erreurs qu'eux avaient faites et que du coup, moi, je n'ai pas faites. Et ils m'ont donné voilà, tout leur secret. Et du coup, je me suis installée beaucoup plus sereinement que si je n'étais pas passée par là. Et j'en serais pas là aujourd'hui si je n'avais pas fait cette formation.
C'est une belle expérience. Réciproquement, toi, ça t'a apporté beaucoup de choses, mais pour le fermier, pour le paysan qui t'accueille, c'est aussi un coup de main que tu leur proposes, finalement. Tu m'as dit, c'est lui aussi, il est d'une certaine manière gagnant sur cette opération.
Ah bah oui, oui. En plus, j'étais là toutes les semaines. Donc au départ, c'est sûr, il y a un temps de formation. Je connaissais pas tout. Mais après, ce qui était bien aussi, c'est que j'ai gagné peu à peu en autonomie et j'ai pu avoir des responsabilités, me charger de certains travaux au champ, d'accompagner des nouveaux stagiaires ou d'autres choses comme ça aussi. Et puis pour eux, je pense que c'était agréable aussi parce que ça les a mis en lien avec les autres paysans qu'ils ne voyaient pas forcément. Et donc à chaque fois que je revenais, je donner des nouvelles des autres, eux demander des nouvelles, puis est-ce qu'il a planté ses poireaux, comment il a fait. Donc ça permettait de comparer et après on avait des sessions de regroupement où on se voyait entre nous tous ensemble et ça permet aussi de créer du lien social et de sortir un peu de sa ferme. Voilà.
Alors donc tu viens de t'installer dans une ferme existante, mais tu as ta propre production. Quel regard tu as, bon, tu as 27 ans, tu démarres tout juste, quel regard tu as sur le monde paysan, sur ses difficultés, ses réussites, ses espoirs? Comment est-ce que tu analyses un petit peu tout ça, de ton point de vue, de ta fenêtre en quelque chose?
J'avais beaucoup, beaucoup d'appréhension à rentrer dans le monde agricole, parce que moi je ne connaissais que la fenêtre de l'élevage industriel, de l'agriculture intensive. Et en fait, en rentrant dans le réseau, en passant par les différentes associations, parce qu'on est aussi passé par le CEDAPA pour préparer mon arrivée sur la ferme qui était déjà existante, j'ai rencontré vraiment beaucoup de monde, c'était très solidaire, des fermes à taille humaine, raisonnées, où on essaye de changer les choses. Et moi, ça m'a vraiment confortée dans l'idée de faire partie de ces personnes-là qui cherchent toujours à améliorer, à être plus solidaires, à être plus respectueux de l'environnement, des bêtes, et plus proches des consommateurs. Et moi, je trouve que c'est très positif, quoi.
Finalement, c'est commencer à dessiner une autre société.
Ah bah oui, complètement, complètement. Mais je pense qu'il faut encourager. Je pense que les consommateurs de plus en plus regardent en plus. Et du coup, je pense que le meilleur moyen, c'est d'ouvrir les fermes et de se faire connaître et continuer le travail que les associations font. Et tout doucement, ça, tout finira par changer pour le meilleur.
Bien, je te remercie. Alors peut-être une toute dernière question, peut-être un peu plus personnelle, tu verras si tu réponds ou pas. Donc là, tu viens juste de t'installer, mais tu n'es pas vraiment chez toi, en quelque sorte.
Mm-mm.
Est-ce que, peut-être pas pour maintenant, mais est-ce que tu as d'autres projets à terme, une installation complètement personnelle, ou est-ce que tu attends de voir quels sont tes projets?
Pour l'instant, c'est vrai que je ne suis pas vraiment chez moi, mais en tout cas, avec le cédant, on a tout fait pour que je me sente chez moi. Donc, j'ai un bail très sécurisant, j'ai mon propre accès à la ferme. Donc, eux rentrent par leur côté de la ferme, moi, j'ai mon côté aussi. On prend des décisions ensemble. Pour l'instant, je n'habite pas proche du terrain, c'est l'handicap. Moi, j'habite sur Boulogne et la ferme est à Ermelingan, donc j'ai 20-25 minutes de route tous les jours. Et voilà, à terme, d'ici 2-3 ans, l'idée, ce serait de se rapprocher avec mon conjoint pour voir de trouver une maison pas loin de la ferme pour que ce soit plus facile. Mais bon, sinon, je me sens... On a tout fait, en tout cas, pour que je me sente chez moi et j'ai mon propre bâtiment et mon indépendance. Donc c'est très bien.
Ben, merci Justine et puis bonne continuation.
Ben de rien, merci beaucoup.
On vient d'entendre deux jeunes femmes, hein, Karine et Justine. C'est deux extraits d'une émission plus importante dont on vous reparlera, hein, sur la thématique générale de l'agriculture paysanne avec les enjeux, l'histoire, le syndicalisme paysan, les luttes dans le monde paysan. Donc l'agriculture paysanne, c'est une dimension importante de l'agriculture aujourd'hui et c'est aussi... pour ce qui nous concerne, un point qu'on aime souligner, une dimension importante de la nouvelle société qu'on souhaite voir advenir. Ben, on vous tiendra informé quand ce reportage sera prêt. Ce sera sans doute un reportage en deux ou trois parties. On en reparlera. Ben, pour l'heure, cette émission se termine. On est sur microrebelle.fr, sur notre web radio et chez nos amis de PFM 99.9. Alors je termine par vous rappeler, hein, je vous en ai parlé en début d'émission, notre prochaine Assemblée Générale, hein, c'est le jeudi 6 juillet à 18h et c'est suivi d'un barbecue. Donc cette Assemblée Générale est ouverte à toutes nos auditrices et tous nos auditeurs. On souhaite évoquer ensemble le projet de Micro Rebelle, hein, une radio différente, hein, une radio d'actualité, des luttes sociales, politiques, alternatives, économiques, féministes, antiracistes, anticapitalistes. Donc un projet qui a du corps et qui a besoin de souffle. On reparlera de tout ça. On reparlera aussi de nos projets immédiats pour l'année 2017-2018. Et bien d'ici là, bonne semaine à toutes et à tous. Portez-vous bien. À la semaine prochaine.